De retour sur Radio Campus Tours, Radio Campus Orléans, Radio Active, Radio Pulsar, Radio Campus Angers, Radio Tintoin et Studio Zef, toutes les radios de la région.
On est nombreux.
On est nombreux, toujours sur l'espace Fracaba, puisqu'on parle de la région et qu'on est à Terre du Son, au domaine de Candé. Et on va continuer de parler de la région, puisqu'on est avec un groupe des presque locaux, un groupe blésois, Raki Bouzouki,
ouais.
Un trio musical vraiment de la bonne et de la grande musique, puisqu'on va voyager de l'Anatolie aux confins du Caucase et jusqu'en Iran avec un trio composé de Cyril, Adil et Clément, qu'on va peut-être déjà vous souhaiter bienvenue ici à Terre du Son.
Merci beaucoup.
Et puis vous laisser présenter ce trio.
Alors on peut peut-être commencer par une question, parce que quand même, Raki Bouzouki, ça veut sûrement dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux mots et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom?
Alors, il y a un nom qui est peut-être plus connu que l'autre, puisqu'en France, on a un rapport aux boissons particulières alcoolisées qui n'est pas anodin. Et donc, le raki. Le raki, c'est, on pourrait dire, de la gnôle, simplement. Mais c'est une gnôle qu'on trouve au Moyen-Orient, un peu partout. On trouve du ouzo en Grèce, on trouve du raqueux en Turquie, on trouve de l'arak. Arak, raki, c'est le même mot, en fait, au Liban ou même dans toute cette région-là, en tout cas, dans le croissant fertile. Et on trouve aussi de la rakia dans les Balkans, où là la rakia est plus précisément de l'agneau, de différents fruits, bon, ce qui est la même chose pour le raqueux, même si c'est anisé comme le ouzo. Donc voilà, c'est un petit peu emblématique d'une région que nous on affectionne particulièrement pour sa musique et donc pour sa culture en général. Donc qui dit musique dit nourriture,
gastronomie,
alcool et ou thé, simplement. Mais bon, là, du coup, nous, c'est vrai que pour la musique qu'on défend, l'alcool est assez présente. Et donc, voilà, le raki, c'est peut-être le mot le plus connu des deux. Maintenant, le bouzouki, j'ai l'impression que c'est très connu aussi. Maintenant, voilà, c'est simplement un luth grec qui représente... Voilà, c'est un peu l'emblème de la musique grecque. Et donc, on l'utilise parce que notre répertoire est vraiment très, très influencé par la musique... de cette région-là, notamment par la culture du rebetiko, qui est une musique de fond de taverne qui se jouait au début du XXe siècle, entre les années 20 et les années 30. Ça a continué, même maintenant c'est très vivant le rebetiko, mais les 16 heures de gloire, c'était au début du XXe.
J'ai lu un article sur cette musique cette semaine, parce qu'en ce moment, alors ça échappe un peu à nos radars ici, mais il y a un rappeur qui est très connu en ce moment en Grèce qui reprend des instrus de ce genre musical. Et dans l'article, en fait, il disait que c'était très rigolo, parce qu'en plus, c'est un rappeur qui est d'origine nigériane, je crois, qui vit à Athènes. Et il disait donc voilà, une réappropriation par un immigré en Grèce d'une musique traditionnelle grecque, donc avec du bouzouki aussi. Et il fait du rap.
Ah, bah écoute, moi je suis très curieux de connaître cet artiste et j'espère qu'on aura la référence.
Bah, on va essayer de...
Tu te souviens de son nom ?
Et j'ai perdu le nom. C'était un excellent article sur la scène musicale athénienne, mais tu vois, j'ai pas retenu le nom, mais c'est à chercher, quoi, tu vois.
À chercher. On y a regardé.
Du coup, parmi vous, qui joue du bouzouki ?
Alors, du coup, pour le coup, c'est moi qui joue du bouzouki. Mais pour être très précis, d'ailleurs, ça va me permettre de laisser la balle à Clément. Clément joue du baglama, qui est en fait vraiment l'enfant du bouzouki, le petit frère du bouzouki.
C'est un tout petit. Ouais. En fait, voilà, souvent ça se joue en duo. Le bouzouki fait les thèmes. Il a une plus grosse caisse, un long manche. Et le baglama, c'est le tout petit. Il a vraiment une toute petite caisse, grande comme une noix de coco à peine, quoi. Puis un tout petit manche, ça fait les accords, ça accompagne. Puis normalement, il y a un troisième frangin, c'est la tsouras. Donc c'est avec une caisse de baglama, mais un manche de bouzouki. Voilà, là, on n'en a que deux. Et puis plutôt que de faire la formation traditionnelle, on a préféré intégrer un percussionniste, Adil. Avec qui
les
on aimait bien jouer.
Et quel
genre percussions. De percussion du coup?
Alors je joue du cajon et de la derbouka.
Qu'est-ce qui vous a donné envie tous les deux de vous rapprocher justement de ces instruments assez traditionnels grecs?
Bon, c'est la musique qui nous a... C'était plutôt un répertoire qu'on aimait bien. Au début, moi je le jouais plutôt au violon parce que je suis violoniste avec d'autres formations, d'autres groupes. Cyril il joue du saz aussi, il joue quoi, toutes des luttes, il jouait de... Moi il m'impressionnait parce qu'il jouait de plein de luttes différentes. Puis petit à petit on a affiné ce répertoire et en allant dans ce répertoire qui nous plaisait bien, dans le rebetiko, on a essayé de prendre les instruments qui se jouaient au départ. Donc Cyril jouait déjà du bouzouki, moi je me suis mis au baglama, qui est pas si loin que le violon. Un manche de baglama, c'est à peu de choses près comme un manche de violon. Donc j'ai retrouvé mes repères dessus, et puis voilà.
Est-ce que pour ces instruments, il faut aller dans les pays où ils sont culturellement vraiment partie prenante pour rencontrer des maîtres de ces instruments, aller voir sur place comment ils sont joués, ou ici en France, je sais pas vous à Blois, comment vous êtes venu à la découverte de ces instruments, on peut commencer déjà de s'y initier?
Mais effectivement, ça c'est une vraie question. Quand on commence à se lancer sur le chemin de la musique traditionnelle, qui dit musique traditionnelle dit chant culturel, culture, une culture précise, très circonscrite, et donc pour vraiment s'imprégner de ce qui s'y passe, l'idéal c'est de vivre longtemps dans un endroit où c'est pratiqué, et de rencontrer des maîtres, et simplement de les... même pas forcément de jouer avec lui, mais au moins de voir de quelle manière il cuisine, de quelle manière, à quelle heure il se lève, etc. Et du coup, forcément, en vivant avec lui, on le voit jouer, de quelle manière il bouge les doigts. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas de pédagogie véritablement quand on veut se lancer dans la musique traditionnelle. Simplement, on vit avec les gens, on les observe, et les choses se font toutes seules. Donc l'idéal, c'est ça. Maintenant, il y a quand même un mouvement depuis longtemps, depuis l'avènement de la world music dans les années 70, 80. Les gens sont tous... Enfin, pas tous, mais beaucoup se sont intéressés à des instruments. Alors, les instruments rois, c'était les instruments indiens, les instruments africains. Mais sans forcément aller travailler exactement la manière de faire, ni les modes, ni les rites, simplement utiliser le timbre d'un objet instrumental particulier. Et ça a donné une nouvelle manière d'utiliser ces instruments traditionnels à la manière occidentale, parce que c'est surtout le monde occidental qui a essayé de faire de la world music, de mixer, même si ce genre de mixage, de mixité artistique, ça a toujours été naturellement opéré, suivant dans les différents pays. Maintenant, c'était plutôt souvent entre des pays frères, des pays voisins. Maintenant, avec l'avènement du mondialisme, voilà, les Japonais sont très friands de musique française et de musique marocaine, peut-être, de toutes les musiques, en fait. Et voilà, donc du coup, les gens s'amusent à utiliser des instruments à leur manière. Et donc c'est une nouvelle musique qui se crée, là, avec ce mouvement des multi-instrumentistes.
Et puis ce qui a pas mal changé la donne aussi, c'est YouTube, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'avec YouTube, tu peux avoir écouter la musique d'un mariage au fin fond de la Yougoslavie, au sud de la Serbie, un mariage de gitans, hop, bah, deux jours après, t'as déjà l'intégralité du mariage en haute définition. Tu peux l'écouter, la ralentir, et que voilà, regarde ce qu'ils ont joué, décortiquer les morceaux. Ça c'est quand même incroyable aussi.
Donc du coup, votre répertoire, c'est plutôt des reprises en fait de chants peut-être traditionnels, ou alors il y a de la composition, un mot justement sur votre répertoire, et est-ce qu'il est uniquement, comme le disait tout à l'heure Sébastien, c'est du rebetiko? On peut peut-être redire aussi ce que c'est, parce que c'est pas forcément connu de tout le monde.
Alors le rebetiko, c'est la musique qui a été mise en forme par des musiciens de haut vol, en fait, à l'époque, dans les années 1920, à l'époque à Izmir. C'était des musiciens qui faisaient beaucoup de musique classique ottomane, mais qui évoluaient dans un milieu interlope, et ce qui était souvent, qui avait des attitudes souvent répréhensibles, et souvent ils étaient pourchassés par la police, et s'ajoutait à ça le fait qu'il y avait beaucoup de Grecs, évidemment, et les Grecs à l'époque et les Turcs, ils s'entendaient pas tous. Les musiciens, oui, ils s'entendaient très bien. Maintenant, voilà, les pouvoirs publics n'étaient pas trop les Grecs, et ils ont été chassés. Il s'est passé toute une histoire que je vous détaillerai pas. Le fait est que ça a donné naissance à un thème, en tout cas de tristesse, d'exil, de situation sociale très compliquée, la tôle, parce qu'il y avait la prison qui était très présente, il y avait la prostitution, les endroits, les tavernes cachées, parce qu'il y avait beaucoup d'endroits clandestins. Et autour de ces thèmes-là est née une musique empreinte de thèmes sociaux, de thèmes difficiles, mais faite par des musiciens qui avaient une grande connaissance du makam, une grande connaissance des rythmes du Moyen-Orient. Et ça a donné quelque chose de très particulier, où on sent des chanteurs qui chantent d'une manière très fine, avec une voix très éraillée, voilà, qui passent leur vie dans la fumée des narguilés. Et voilà, donc ça, c'est le rebetiko du début du XXe siècle. Après, c'est vrai que le rebetiko a évolué, parce que quand ça a commencé à fonctionner, évidemment, il y a eu un petit changement de cap et ça a fonctionné aux États-Unis et les thèmes sont devenus plus des histoires d'amour, alors souvent des histoires d'amour déçues, mais c'est devenu un petit peu plus putassier, on pourrait dire. Bon, n'empêche que ça reste de la très belle musique et des très beaux textes aussi. Et voilà, c'est un style qui nous parle à tous les trois très fort.
Et donc avec Raki Buzuki, on a essayé de le ressortir un peu différemment.
Tout à l'heure, tu parlais de la tôle. Moi, je parlais de la maison d'arrêt de Blois. Vous avez joué récemment, on va parler après de Terre du Son, mais on va parler d'une toute autre scène, donc la maison d'arrêt de Blois. C'était dans quel cadre? Sur le territoire blaisois, vous êtes investi comme ça dans des missions culturelles?
En fait, on a commencé à structurer ce projet avec le Château d'Eau, la SMAC de Blois.
Ouais.
Et
très bonne salle.
C'est une super salle. Et un volet aussi action culturelle. Et donc voilà, Benjamin de l'action culturelle nous a proposé différentes choses. Pendant le confinement, on avait fait des projets avec des scolaires. Et puis là, il nous a proposé de faire quelque chose avec la prison. Et c'était chouette parce que c'était pas juste aller faire un concert, c'était faire des ateliers sur 4 semaines. Donc on a pu vraiment construire quelque chose au bout de ces 4 semaines avec des détenus et proposer un concert d'une heure avec des détenus, pour des détenus. Et donc c'était vraiment une chouette expérience, c'était cool, et puis on a pu commencer un peu en partant dans l'inconnu, sans savoir ce qu'on allait pouvoir faire avec eux. On arrivait avec des darboukas, avec des choses à mettre un petit peu sur la table, et puis c'est bien parce qu'on a réussi à faire quasiment 50 minutes de concert avec les détenus, donc c'est vachement bien en 4 séances, on était vraiment très contents de ce retour, et puis c'était une action donc voilà, qui était aussi en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, et c'est chouette quand les choses marchent bien comme ça, les partenariats entre différents organismes, et ben c'est un régal pour nous, et j'espère aussi pour les détenus qui ont pu participer à cette opération.
Et donc ce soir, à quelle heure le concert pour ceux qui souhaiteraient rejoindre la prairie de Domaine de Candé et venir vous voir?
De 18 à 19h.
De 18 à 19h, donc à Terre du Son. C'est une première pour vous sur un tel festival où ça y est, vous commencez à faire quelques dates là un peu en région. S'il y a d'autres dates à venir d'ailleurs pour ceux qui veulent vous voir.
Avec Raki Buzuki, oui, c'est une première. J'ai déjà eu la chance de venir avec Soviet Supreme ici il y a quelques années. C'est un très bon souvenir. Et avec Raki Buzuki, voilà, on a eu la chance de jouer au quart de tour le mois dernier, jouer à la guinguette aussi de Saint-Avertin. On a beaucoup joué à Tours ces derniers temps.
Au Temps Machine aussi.
C'était organisé par le Temps Machine.
Ouais, voilà, ouais. Et une autre question, dans le paysage régional des musiques, de ces instruments, je pense à Tours, on a le duo Garcia, je pense il y a l'ensemble Alcantara aussi à Bourges. Est-ce que c'est des ensembles, des musiciens que vous croisez, qui sont un peu vos frères d'armes en termes de darbouka, bouzouki?
Alors c'est marrant que tu poses cette question parce que les deux ensembles cités, c'est un petit peu le début du serpent et la fin du serpent. En fait, quand j'ai commencé très longtemps à m'intéresser aux luttes d'Orient, je jouais beaucoup de oud. À l'époque, c'est le oud qui m'a subjugué dans un premier temps. Et j'étais berruyé. En fait, moi, j'ai grandi à Bourges et du coup, il y avait l'ensemble Alcantara qui était très actif à tout point de vue, au niveau social, au niveau artistique. Et du coup, j'allais voir Rachid Gerbas qui faisait ses ateliers avec des jeunes enfants. Ouais. Je leur apprenais des noubas entières. Et c'est vrai que pour moi, c'était compliqué de pouvoir se dire, voilà, de manière orale, il faut répéter une minute entière de phrases musicales. Enfin bref, c'est une manière d'apprendre la musique très particulière qui, moi, m'a vraiment intéressé. Et du coup, j'ai suivi un petit peu son parcours. Bon, après, moi, j'ai pris mon chemin avec d'autres influences géographiques et culturelles. Mais j'ai suivi le parcours de Rachid Gerbas et j'ai vu qu'il était devenu responsable d'un orchestre national. Alors, je ne sais plus à quel endroit exactement, mais je crois que c'est à Alger qu'il est, je ne sais plus. Et donc, il continue à faire des noubas et c'est de la grande qualité. Et d'un autre côté, il y a, je dirais, un an et demi, on s'est rencontrés avec les frères Garcia. Et donc, on a, de manière très informelle, on a joué ensemble et c'était une rencontre vraiment très fraternelle. Donc, culturellement, évidemment, on connaissait les mêmes chansons ouzbèques, alors ça nous a fait, ça nous a scié. On chante les mêmes chansons de l'Est de l'Iran. Notamment, on est amoureux de la même chanteuse qui s'appelle Sima Bina. Et quand on s'est rencontrés pour la première fois, on pouvait chanter ensemble directement des chansons d'elle. Et c'est vrai que c'était très, très étrange. Mais voilà, et du coup maintenant on peut s'échanger des plans. Voilà, quand je suis pas disponible, je les mets sur le plan. Quand ils sont pas disponibles, mais c'est vraiment voilà. Donc, c'était la tête et la queue du serpent.
On va vous laisser répéter vos gammes, vous rafraîchir et vous préparer du coup pour ce concert. Donc on le rappelle, ce soir 18h, donc à Terre du Son, Raki Buzuki. Et puis bah, en espérant vous revoir aussi très vite sur d'autres événements, d'autres scènes. En tout cas, c'était hyper intéressant de pouvoir parler voilà, de musique, mais aussi des aspects culturels, de tout ce qui va avec. Je fais une petite parenthèse, je me permets une parenthèse sur le Raki, parce qu'en ce moment il est au cœur de gros enjeux politiques en fait en Turquie, parce que je crois qu'il y a je crois que Erdogan voudrait suppléer le Raki par le café plutôt comme boisson nationale, parce qu'il y a des enjeux en fait évidemment politiques, idéologiques derrière, et voilà, donc le Raki en plus c'est de l'actualité, c'est de la géopolitique, donc on apprend des choses.
Absolument.
Ouais. Merci Raki Buzuki.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci à vous.